Bonsoir. D'orcibus, 6 militaires de la garde républicaine, dont un officier, ont été tués lundi dernier dans une embuscade à la roquette contre le véhicule à Rougari, dans une zone d'action des FDLR en territoire de Rutshuru. Selon le responsable de la 34e région militaire, cette attaque contre les convois des FRDC n'entame pas la détermination d'en finir avec les FDLR et d'autres groupes actifs dans la région. Comment analyser cette situation? Nous en parlons avec Julien Paloukou, il est gouverneur de la province du Nord Kivu. Bonsoir, monsieur le gouverneur Julien Paloukou. Il n'est pas encore là, il va nous rejoindre. Mohamed Boulet, député national de l'opposition et cadre du MLC, il est membre de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Il est aussi général à la retraite. Bonsoir, honorable Mohamed Boulet.
Bonsoir, monsieur le gouverneur.
Et Jason Stons, il est directeur du groupe d'études sur le Congo à l'Université de New York et ancien coordonnateur du groupe d'experts des Nations Unies en RDC. Bonsoir Jason Stons.
Bonsoir, bonsoir tout le monde.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Participez à l'émission, appelez-les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Six soldats des FRDC ont été tués lundi matin dans une embuscade tendue à leur convoi à Rougarou. Selon les sources locales, leur véhicule qui venait des Rutshuru pour Goma a été ciblé et a été la cible d'un tir de roquettes. Ce véhicule a été complètement calciné selon des témoins. Les autorités locales affirment que les assaillants ne sont pas encore identifiés. Les récits avec Rosalie Zawadi.
C'est aux environs de 7h30 ce matin que l'attaque a eu lieu. La Jeep de la garde républicaine a été touchée par une roquette tirée de la brousse alors que cette Jeep roulait sur la route principale entre Goma et Rutshuru avec 6 militaires à bord, dont un officier. C'était dans la localité de Rougari, à environ 50 km au nord de Goma. Selon des sources sur place, tous les occupants à bord auraient trouvé la mort. Ces mêmes sources ajoutent que des militaires FARDC venus en renfort sont pour le moment en patrouille dans la zone afin de retrouver l'ennemi qui n'est toujours pas bien identifié. Suite à cette attaque, la circulation a été interrompue pendant quelques heures pour les véhicules privés avant d'être rétablie. Cependant, la population dans ces secteurs craint à son tour d'être la cible d'hommes armés. Selon les autorités locales, les rebelles Hutu-Rwandais FDLR sont les plus actifs dans cette zone. C'est pourquoi la population demande plus de sécurité en cette période de psychose. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
L'attaque de lundi dernier sur un convoi des FRDC à Rougari dans le Rutshuru n'entame pas la détermination d'en finir avec les FDLR et d'autres groupes armés actifs dans la région, rassure les responsables de la 34e région militaire. Cependant, ces derniers ne se prononcent pas sur les bilans ni sur les causes de cette attaque qui a coûté la vie à 6 éléments de la garde républicaine. Une correspondance de Gabriel Wamenya.
Cette énième attaque qui a visé à nouveau un convoi de FARDC dans une zone hautement militarisée relance la problématique de l'insécurité dans les zones supposées sécurisées par les forces loyalistes, soulignent les habitants de Rougari. Ces derniers vivent depuis hier dans la psychose. Ils redoutent d'autres attaques dans cette zone où les soldats de FARDC sont continuellement en mouvement. Les responsables de la 34e région militaire, qui ne veulent pour l'instant ni infirmer ni confirmer les bilans de l'attaque, moins encore donner l'identité des assaillants, rassure. Les porte-parole des opérations Sokola, Kaiko Njike, dit attendre l'issue des enquêtes avant de livrer une quelconque information aux médias. Il précise qu'en dépit de ce qu'il qualifie tout simplement d'incident, les FARDC restent déterminés à traquer l'ennemi. Il reconnaît en outre que les rebelles ont adopté un autre mode opératoire pour échapper à la puissance d'effet des FARDC. Rappelons que deux autres hauts officiers des FARDC ont été déjà tués dans les mêmes circonstances dans les territoires des Beni et Massissi. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Julien Paloukou, bonsoir. Allô, monsieur le gouverneur Julien Paloukou. Apparemment, il n'est pas encore là. Mohamed Boulay, je rappelle que vous êtes député national de l'opposition et cadre du MLC. Vous êtes aussi membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Vous êtes aussi général à la retraite. 6 militaires de la garde républicaine tués dans une zone où les opérations militaires sont en cours. Comment vous analysez cela?
Je commencerai tout d'abord par présenter mes sincères condoléances aux familles des militaires fauchés. J'estime la fleur de l'âge sous les drapeaux en service commandé à leurs familles respectives et à tous leurs compagnons d'armes. Je voudrais la compréhension, comme l'intervenant a dit tout à l'heure, il y a un mode opératoire qui diffère. Mais si nous devons faire l'extrapolation avec ce qui est arrivé à Fémamadou, à Béni, l'audace et l'initiative que prennent ces tueurs est presque la même. Notez que Fémamadou a été tué un certain lundi 24 janvier 2014. Et le lundi 31 août 2015, c'est le tour que ces snipers puissent réaliser leur mission de vaste besogne contre un petit convoi, peut-être en liaison, en mission de reconnaissance, tout simplement, et toujours dans le nord Kivu. Et c'est bien vrai que les modes opératoires qu'on peut examiner, selon le mode des doctrines et des stratégies militaires, c'est résumé tout simplement qu'il s'agit maintenant des guérilleros qui opèrent en milieu urbain. Parce que au PK 50 de Béni et au PK, je crois, 7 ou 8 de Goma, PK 50, et de Béni, c'est PK 6 ou 8, l'aéroport de Mavivi. Tout cela, ce sont des attaques, des assassinats dirigés contre un petit convoi militaire moins sécurisé. Et les responsables qui se trouvent à bord de ces véhicules du reste banalisés, je ne devrais pas dire quel type de véhicule, tout simplement. Et donc, ça veut dire que pour le moment, dans cette partie du territoire qui est constituée par les Graben, et donc il faut que l'armée fasse la lecture des enseignements tirés dans cette zone où depuis 2014 on a vaincu les M23, et que là il faut, je voudrais tout simplement dire, pour ne pas m'étendre, qu'il faut faire l'évaluation de tous les actes d'engagement qu'on a signés autrefois à Goma, dans ce qu'on a appelé à Mani, et des comportements qu'affichent ces responsables de groupes armés, tant étrangers que nationaux.
Honorable Mohamed Boulay, selon les autorités locales, les Kassayans ne sont pas encore identifiés, mais à partir d'un certain nombre d'éléments, vous avez évoqué le mode opératoire qui semble être le même depuis un certain moment, ne peut-on pas identifier un individu ou un groupe d'individus à partir d'un certain mode opératoire?
On peut identifier, je voudrais dire ici, qu'il s'agit là d'une guerre que nous pouvons dire la septième arme, c'est la guerre psychologique. Certaines puissances étrangères qui ont pu expérimenter, et peut-être certains stratèges qui ont eu à évoquer ces questions de septième arme, c'est-à-dire la guerre psychologique, et les mots opératoires. Nous sommes la journée. Et pour faire la jonction, toujours dans le nord Kivu, un commandant des opérations qui se rend à Mavivi pour une mission déterminée, qui est assassiné. C'est la journée. On a mis du temps. Et donc, ce type de snipers qui opèrent, donc généralement ce sont des guérilleros urbains. Ils connaissent les habitudes. Et maintenant, avec la télécommunication, les moyens sont simples, par la téléphonie mobile, on renseigne et puis. Et ceux qui sont là, les exécutants, qui ont les armes telles que les lance-roquettes qui atteignent de plein fouet qui maîtrise, qui neutralise. Je n'aime pas parler de ces mots choquants, tuer, mais assassiner, qui neutralise. Et de la même manière, à Beni et à Goma, c'est, il faut, cela doit interpeller du parti de nos forces armées et de défense et de sécurité à voir comment faire pour faire face à cette septième arme, je vais dire, la guerre psychologique. Et les gens qui connaissent que... l'habitude, qui sont là, qui se muent, qui comme un poisson dans l'eau, qui sont dans la population, parce que 7h30, et tout le monde est quand même éveillé, quelque part, les gens vont dans leur champ, dans cette contrée-là, je ne pense pas qu'on est en train de grimper pour aller vers les volcans ou vers les parcs, et donc on attendait une embuscade à un endroit où, sûrement, ceux qui ont eu l'initiative étaient certains qu'ils allaient réussir et faire ces coups d'éclat.
Et donc il faut que les FARDC puissent voir comment s'adapter, n'est-ce pas, à cette nouvelle technique.
C'est-à-dire par l'évaluation, il y a des structures. Nous avons fait une loi importante sur les forces armées, où là-dedans, il y a des structures habilitées à faire de manière permanente et continuelle l'évaluation des menaces de ce type-là. C'est dans ce cadre-là que je suis entré, et ce n'est pas ici, je ne me permettrai pas de faire ces analyses, parce que je ne suis pas autorisé à le faire, des analyses d'évaluation des capacités de nos forces armées.
Merci, honorable. Julien Palouco, bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir à tous les hôtels Radio Capi, à la population du Nord Kivu.
Je rappelle que vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu. 6 militaires de la garde républicaine tués dans une embuscade à Rugari. Et comment vous expliquez cette situation?
Oui, tout d'abord, nous devons adresser toute notre compassion à nos forces armées qui nous ont honoré par les différentes victoires auxquelles nous sommes arrivés depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. Maintenant que nous avons connu cette attaque surprise qu'on appelle embuscade, nous avons des analyses. La première, c'est que à chaque fois qu'une force ennemie est affaiblie, elle choisit l'embuscade comme mode opératoire pour faire peur. La deuxième, c'est que en faisant peur à nos forces armées par cette embuscade, c'est pour empêcher la mobilité de nos hommes de troupes qui sont aujourd'hui engagés dans une lutte effrénée contre les FDLR dans les territoires de Rutshuru, dans les territoires de Nyiragongo et dans les territoires de Walikale. Et pour nous, nous pensons que cette information devient comme la une parce que les gens n'étaient plus habitués effectivement à voir ce genre de morts des côtés de nos militaires. En 2013, c'était comme d'habitude de voir nos militaires mourir, où on voyait 10 morts, 15 morts, 20 morts. Mais avec la montée en puissance de nos forces armées, la population a oublié effectivement cela. C'est ainsi que ça devient une nouvelle information lorsqu'il y a cette embuscade qui a vu 6 de nos hommes mourir. Et donc, pour nous, au Nord Kivu, nous sommes en train d'évaluer rapidement la situation avec les autorités militaires, dont le moral n'est pas entamé par cette embuscade qui a eu lieu à 36 km au nord de Goma, parce que les opérations continuent. Et si vous me le permettez, je vous dirai exactement qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui à la suite des opérations menées contre les FDLR et cette colère-là du petit groupe qui reste, c'est ce qui l'amène sur certains tronçons pour essayer un peu d'étendre des embuscades aux officiels, comme nous-mêmes, lorsque nous allons dans les massifs, dans les Rutshuru, c'est toujours dans une alerte que nous allons dans une entité, parce qu'à tout moment, les gens d'embuscades sont toujours tendus aux différentes autorités. C'est arrivé, mais ça ne nous affecte pas, nous nous battons pour essayer un peu de réduire la capacité de nuisance de ces forces du mal qui écume encore quelques petites localités dans la province du Nord.
Monsieur le gouverneur, vous analysez cette situation en disant qu'à chaque fois qu'une force ennemie est affaiblie, elle choisit l'embuscade pour faire peur. Il ne se poserait pas un problème d'adaptation des FRDC par rapport à cette nouvelle technique de combat? Vous avez suivi l'honorable Mohamed Boulé qui a évoqué, n'est-ce pas, les mêmes modes opératoires qui a utilisé des points c'était bombes dans cette région. Et pourquoi les FRDC ne peuvent pas, n'est-ce pas, essayer de monter, de repenser les stratégies pour voir comment s'adapter à cette nouvelle technique de combat?
Bon, je crois qu'une embuscade ne peut pas nous amener à évaluer la capacité d'une force armée. C'est-à-dire, elle s'appelle embuscade parce qu'elle est une attaque surprise. Et on ne peut pas imaginer des modèles de faire face aux attaques surprises. Sinon, elle ne s'appellerait pas surprise. Donc, je crois que ce qui compte pour nous, c'est de voir comment nos forces armées sont engagées à réduire la capacité de l'ennemi. Aujourd'hui, depuis que les offensives ont commencé à partir du mois de janvier 2015, nous avons plus de 232 FDLR qui ont été capturés par nos forces. Nous avons plus de 158 armes qui ont été récupérées de leurs mains au regard du dernier rapport que nous avons eu lors de notre dernière réunion d'évaluation avec les éléments des forces armées pour voir exactement ce qui est en train de se faire. Donc je crois que la tactique que nos forces armées utilisent aujourd'hui, on ne doit pas la révéler. Et ce que l'ennemi est en train de faire, c'est comme quelqu'un qui est dans un sentiment de désespoir et qui essaie un peu de faire des actions délocalisées pour empêcher effectivement que nos unités ne puissent le surprendre là où il est. Et donc, nous sommes conscients de tout cela. Dans les réunions que nous tenons avec les éléments des forces armées, eh bien, il y a des stratégies qui ont été montées et je peux vous dire que ça ne fera nullement peur à nos forces armées. Ça ne peut même pas nous amener à croire qu'il y ait une réorganisation des FDLR ou des Maïmaï quelque part. Les éléments des forces armées sont déterminés à assurer la sécurité à sa population.
Monsieur le gouverneur, quand vous analysez les faits, quelle est la conclusion que vous en tirez? Ces militaires ont été ciblés parce qu'ils sont de la garde républicaine ou tout simplement parce qu'ils font partie de l'armée nationale?
Vous savez, dans une zone opérationnelle, on ne distingue pas les unités pour dire celles-ci appartiennent à la garde républicaine, celles-ci appartiennent à l'état-major. Dans une zone opérationnelle, on déploie les unités selon les missions. Et ce n'est que quand deux ou trois éléments sont tués que les gens peuvent se rendre compte qu'ils appartiennent désormais à telle catégorie. Mais sur les champs de bataille, il n'y a pas de distinction. Ce sont des forces engagées dont on ne tient pas compte de leur provenance, provenance présidence, provenance état-major, provenance Kisangani ou Sud Kivu. Elles sont engagées sur la ligne de front et ce n'est que quand il y a des morts qu'on peut se rassurer que c'est plutôt dans telle unité où nous avons connu des morts. Donc, pour nous, nous ne faisons pas de distinguo dans les unités qui sont déployées sur la ligne de front.
Monsieur le gouverneur, la garde républicaine attaquée, n'est-ce pas un symbole? Qu'est-ce que cela peut signifier à votre avis?
Oui, ça signifie que pour ceux qui analysent la situation de l'Est, nous sommes dans un processus de stabilisation et d'éradication des groupes armés. Et dans ce processus d'éradication des groupes armés, il y a toujours des éléments isolés qui veulent démontrer qu'ils existent toujours. Mais j'ai toujours donné une image, hein, je crois à la radio Capi, je l'ai dit plusieurs fois, après une forte pluie, après des orages, il y a toujours des gouttelettes qui tombent après la pluie, mais on ne peut pas dire qu'on va confondre les gouttelettes à la pluie elle-même. Donc c'est tout à fait normal que ces ennemis-là aussi se fassent entendre, mais ce qui nous intéresse, nous comme gouvernement, c'est de les réduire sensiblement jusqu'à leur éradication totale. Et c'est ça la mission qui a été assignée par le commandant suprême aux forces armées. Et lorsque je vois leur engagement, leur détermination sur le terrain, je ne doute pas un seul instant.
Merci, monsieur
que
le gouverneur.
Les ennemis qui, aussi que ça est là, je ne doute pas qu'ils seront réduits dans les jours qui viennent.
Merci, monsieur le gouverneur Jason Stans. Vous êtes directeur du groupe d'études sur le Congo à l'Université de New York et ancien coordonnateur du groupe d'experts des Nations Unies en RDC. Comment vous analysez cette attaque à la roquette du convoi des militaires de la garde républicaine?
Effectivement, il est assez difficile de savoir qui exactement a été auteur de cette attaque. Et je pense que la déclaration du commandant des opérations Sokola était prudente, c'est-à-dire qu'il faut d'abord faire une enquête. J'ai pu parler avec différents services, les services congolais, ensemble avec la MONUSCO, la société civile après l'attaque. Et il y a différents versions qui ont été données pour l'attaque. Il y a ceux qui croient effectivement que c'était une attaque des estellaires contre les FARDC, ce qui est tout à fait possible, comme c'est une zone de paratimale des estellaires. Néanmoins, il faut dire que ce serait assez singulier dans le sens que l'FDLR dans toutes ces opérations n'ont pas vraiment osé ce genre d'attaque aussi près de Goma ou de la route principale. Ou Gari, c'est sur la route principale de Goma entre Goma et Rutshuru. La deuxième version des choses serait que ce soit une attaque ou un règlement de compte au sein des services de sécurité congolais, que ce soit par rapport à une répartition des taxes locales, par exemple. Il y a certaines indications qui montent dans cette direction-là. Et la troisième hypothèse, que ce serait des troupes, et je pense à cela que l'honorable Boulet faisait allusion, que ce serait lié à une milice qui serait proche du Rwanda. Une milice d'un certain Mandevu qui était dans le temps dans les SDLR avant de se rallier aux M23 en 2012-2013. Alors voilà, il y a encore la confusion qui plane. Je pense qu'il serait très très prudent de mener une enquête d'abord. La deuxième chose que je dirais très rapidement, c'est que dans cette perspective de mener des enquêtes, il serait souhaitable que ce ne soit pas seulement les autorités militaires qui fassent ces enquêtes. Je rappelle qu'il y a eu plusieurs incidents dans les années passées, très controversés. L'honorable Boulet a soulevé le cas de Mamadou, qui ont été adressés par des enquêtes militaires qui n'ont pas toujours satisfait l'opinion publique. L'attaque, par exemple, sur Mamadou a donné des résultats. Donc le procès de Mamadou a donné des résultats qui ne rassuraient pas tout le monde, bien que la société civile congolaise. Des autres attaques, par exemple, les adeptes de Mokongo-Bila à Kinshasa, un peu la même chose. Donc, je souhaiterais de voir de plus en plus aussi le Parlement congolais, le Parlement provincial, par exemple, aussi jouer ses responsabilités de contrôle par rapport à l'armée et services de sécurité congolaise.
Oui, M. Jason, à votre avis, à travers cette attaque, c'est la garde républicaine qui était visée ou c'est le FARDC?
Oh, très difficile. Je suis d'accord avec le gouverneur que dans ce genre de zone, il est souvent on ne distingue pas entre les deux. Visiblement, on a ciblé la garde républicaine. Alors, si c'était les SDLR, je pense qu'on ciblait en général le gouvernement congolais. Alors, si c'était un règlement de compte entre les FARDC et la garde républicaine, ou l'armée du terre et la garde républicaine, là, en ce cas-là, ce serait différent. Donc, tout dépend de quelle hypothèse on soutient.
Voilà, la garde républicaine, tout est symbole. Cette attaque, n'est-ce pas un message?
L'attaque, voilà, je reviens encore, peut-être que je ne me satisfais pas avec mes réponses, mais je reviens encore au fait que si on ne sait pas qui a conduit l'attaque, il est difficile de dire quel est le message. Comme l'honorable Boulet a dit, il est tout à fait possible que ce soit le message en soi-même soit seulement une façon de créer une psychose au sein de la population, de déstabiliser l'opinion publique, de délégitimiser l'armée nationale, c'est une possibilité. Ou peut-être c'était seulement un message envers une unité locale qui s'est brouillée avec une autre unité locale. Alors, il est très difficile de savoir exactement quel est le message sans savoir qui est derrière l'attaque.
Oui, Jason, une attaque à la roquette, à quoi ces modes opératoires vous fait penser?
Je suis d'accord, ça fait penser justement à l'attaque sur le colonel Mamadou, le feu colonel Mamadou à Mavivi l'année passée. Mais je pense aussi, et voilà, ce qui pour moi est assez frappant, c'est que c'était à Rougari, c'est pas très loin de Goma, le gouvernement l'a dit, c'est à 35 km au nord du Goma. C'est un endroit sensible, il y a des marchés là-bas, il y a une paroisse là-bas, c'est à un endroit où qui lie un peu le forêt de Mikeno, les volcans de Mikeno avec l'autre côté du parc et du Runga. Donc c'est un endroit assez sensible, point de vue stratégique. Normalement, il y a pas mal de militaires basés là-bas. Le fait qu'ils se sont attaqués là-bas montre que qui que ce soit, c'est oser vraiment de frapper au sein de le cordon sécuritaire des FARDC autour de Goma.
Monsieur Gison, il était dit que les opérations militaires contre les FDLR ont permis, n'est-ce pas, de réduire considérablement la capacité de nuisance de ces rebelles. Et c'est vrai qu'à ce stade, on ne peut pas affirmer avec conviction que c'est les FDLR qui sont à la base de cette attaque à la roquette. Mais si, à l'issue des enquêtes, il est établi que ce sont eux qui sont à la base de cette attaque, est-ce que ces faits-là ne pourraient pas contredire l'affirmation selon laquelle les opérations ont permis de réduire considérablement la capacité de nuisance des FDLR?
Alors, il est vrai que les FARDC, ils ont vraiment démontré, comme le gouverneur vient de dire, il y a eu des succès remarquables dans les années passées, surtout la défaite des M23 et les opérations contre les ADF, dans lesquelles les FARDC, ils ont perdu beaucoup de sang, beaucoup de vie. Et avec beaucoup de courage, il faut le dire, parce qu'on critique souvent l'armée congolaise, surtout les étrangers comme moi, on les critique beaucoup. Mais il faut vraiment dire que dans les années passées, ils se sont démontrés d'un courage et aussi une capacité beaucoup plus qu'avant cela. Donc on a eu une nette amélioration de la capacité de FARDC. Donc c'est surtout dans ces opérations contre les M3 et contre l'ADF. Néanmoins, je dirais, le bilan des opérations contre les FDLR, donc les opérations sur Kola 2, au sud Kivu et au nord Kivu, ont été un peu plus mitigées. Au sud Kivu, on constate très peu l'avancée contre les FDLR, c'est-à-dire qu'on a repoussé les FDLR, mais on n'a pas vraiment pu se battre trop avec les FDLR. Les FDLR, ils ont seulement pris l'Afrique. Au nord Kivu aussi, on a constaté que les FARDC, ils ont fait un effort, ils ont foncé dans les endroits, dans les jungles du Walikale, de Lubero, etc. Mais même là, c'est le terrain très 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 difficile. Ce n'est pas les M23 qui ont essayé de garder, de contrôler en territoire.
Donc, merci Gison.
Des combats réguliers, comme avec oui.
Merci, je vous redonne la parole tout à l'heure. Honorable Mohamed Boulay, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Bukavu, sud Kivu.
Je descends à Kianga à partir de Bukavu, sud Kivu. À mon avis, cette attaque à la roquette des équipes des gardes des républicains prouve à suffisance que cette zone demeure encore incontrôlée par la force loyale. Depuis la disparition de ces regrettés combattants militaires qui maîtrisaient la situation dans cette zone, et faute de quoi, aujourd'hui, l'insécurité est redevenue monnaie courante sur cette partie du pays. Cependant, le gouvernement congolais devrait mettre à la tête de différents postes de commandement militaire, d'autres services sécuritaires tels que l'ANR, la DGM, les hommes capables de servir loyalement la nation congolaise, comme faisait le général Bahouma et le colonel Mamadou Ndala, que le peuple congolais n'oubliera jamais. Et non de continuer avec ceux-là qui se disent l'être alors qu'ils ne le sont pas.
Oui, Mohamed Boulay, votre réaction?
Je voudrais d'abord saluer le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, que j'ai entendu tout à l'heure. Je voudrais tout simplement dire ceci, parce qu'il faut décrypter le type d'action et d'incidents violents contre les forces armées, notamment toujours dans le Nord Kivu. Et je suis d'avis de l'intervention de l'intervenant de tout à l'heure, parce qu'il affirme là que la problématique demeure, c'est-à-dire la permanence des groupes armés nationaux et étrangers. Et alors qu'à un certain moment, à une certaine époque, on a évalué, il y a eu deux actes d'engagement signés. Les groupes armés, au nombre, je crois, de 9 du Nord Kivu, ont signé cela, sauf les groupes armés étrangers. Et
en 2009
Non, nous sommes, je crois, pas en 2009, nous sommes en 2008.
Oui.
Et alors, et cette insécurité demeure. C'est ça la préoccupation. Et il faut aussi décrypter ces types d'actions. Et une attaque, assassinat contre un véhicule à bord duquel s'est trouvé le commandant, pas n'importe lequel, le feu général paye à son âme Mamadou, qui a été, c'est la journée, c'est un lundi, simple coïncidence. Et nous sommes à Rugaru, à 36 kilomètres, comme l'a bien précisé M. le gouverneur Paluku, Et dans le cas d'espèce, l'armée, avec sa doctrine, avec ses stratégies, il y a des opérations dites classiques, des embuscades, des raids et tout ça. La guérilla aussi, avec des effectifs assez réduits. Les résiduels de ce qui est resté de ces groupes armés, que ce soit les M23 et autres, parmi les neuf, y compris les FDLR, c'est un danger permanent. C'est ça le problème. Eh bien, cet intérêt qui n'est pas intérêt facile d'opération.
Vous avez suivi le gouverneur qui affirme que ce n'est pas parce qu'il y a eu attaque d'un convoi qu'on peut, n'est-ce pas, chercher à s'adapter, à changer, à repenser la stratégie militaire.
Non, ce n'est pas ça. Lorsque il y a des types d'opérations réussies de la part, parce que c'est une publicité, tout le monde en parle. La communauté des médias, que ce soit l'Internet, ça en parle. Il faudrait certainement analyser. Parce que là, pourquoi j'ai parlé de la septième arme, la guerre psychologique? Il faut intéresser la population, que ce soit une guerre totale. Parce que ce qui s'est fait, si on a de telle manière qu'on a attaqué, on s'est attaqué à ces éléments-là, quel était l'état d'esprit des populations environnantes, les marchés et tout ça, et pour avoir circulé bien une partie de notre pays, je connais aussi l'Axe, à un certain moment, et donc ça pose problème. Et donc, ce n'est pas à l'autorité civile de faire ces appréciations, encore moins ces analyses de faits. J'ai parlé ici d'une structure militaire qui doit le faire. Et je suis certain que cette structure militaire le ferait. Sinon, des opérations ne seraient pas planifiées et organisées et déclenchées pour leur mise en œuvre. Et donc ça a une importance. Et bien sûr, l'intervenant parlait de l'ANR. L'ANR, à la ligne de front. Et donc l'ANR n'est pas présent. Ce sont les renseignements militaires. Et donc, les renseignements militaires, la communauté des renseignements militaires, les renseignements, dans les cas d'espèce, ceux qui sont là, qui se présentent devant, dans une zone opérationnelle, dans un théâtre d'opération donné, ce sont les militaires avec tous les services qui l'accompagnent, et ce y compris la logistique.
Vous avez suivi Jason Strauss qui estime que les enquêtes, quand elles sont menées par les militaires, souvent elles n'aboutissent pas. Hein. Il a relevé les cas de l'assassinat du fait général Mamadou Ndala, et lui estime que pour et crédibiliser ces genres d'enquête, il faut associer notamment les parlementaires que vous êtes. Et on rappelle ici que vous êtes membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Et chaque fois quand il y a ces genres d'incidents, est-ce que vous ne tentez pas d'initier une démarche auprès des autorités militaires pour voir si on peut aussi vous associer à ces genres de démarches?
Mais écoutez, par devoir institutionnel, nous, comme Parlement, nous avons le droit de le faire. Donc, les auditions en commission, par exemple, à la Défense nationale, ce sont des auditions qui se font, donc, à huis clos. Et l'essentiel de ce qui peut être communiqué. Mais, le Parlement, au nom de la séparation des pouvoirs, ne peut pas aller s'ingérer ou interférer dans ce que la justice militaire ou civile doit faire. Ça, je dois le dire ici que notre institution ne pourrait pas aller dans ce sens-là, sinon ce serait de violer notre propre constitution, nos textes et lois, qui sont opposables à tous.
Merci, monsieur le gouverneur Julien Paluku. Il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Bukavu, vous dites qui vous, une fois de plus.
Isaac Bankori qui de Bukavu au sud Kivu. C'est paradoxal que quelques bandes d'Est demeurent réfractaires au processus de DDRRR puissent se mettre à faire des victimes dans les rangs des FRDC qui, depuis le 2 janvier dernier, sont restés pratiquement passifs à ces groupes armés étrangers dont pourtant ils sont censés avoir lancé l'éradication à partir de cette date. Qu'est-ce qui a bloqué cette opération? Que devient la fameuse montée en puissance des FARDC? Les éléments des FDLR sont-ils plus forts que ceux du M23 surarmés qui ont été vaincus en un temps record?
Oui, monsieur le gouverneur, votre réaction par rapport à cette réflexion?
Oui, l'auditeur a des bonnes raisons de devoir se poser des questions, parce que peut-être il n'est pas au nord que vous, nous qui y sommes, je l'ai dit au début de cette émission, qu'il faut seulement voir les bilans auxquels nous sommes arrivés aujourd'hui pour se rendre compte de ce que nos forces armées ont pu réaliser. J'ai dit, j'ai rappelé que nous sommes à plus de 230 FLR qui sont capturés, plus de 34 tués. Nous avons plus de 133 armes individuelles qui ont été récupérées et plus de 25 armes collectives. Donc, il y a des efforts. Alors, qu'est-ce que cette attaque veut nous dire? Avec les opérations qui sont menées, les bilans que je viens de vous donner, ceux qui ont attaqué veulent ramener les éléments des forces armées qui sont dans les profondeurs au niveau de la route principale pour ne pas continuer les opérations. Nous avons vécu cela à Beni, nous avons vécu cela avec les éléments du M23, avec les CNDP. À chaque fois que les opérations sont en profondeur, l'ennemi a tendance à ramener les hommes de troupes sur la principale pour empêcher la progression à l'intérieur. Et nos forces armées sont déjà avisées à ça, on ne peut pas tomber dans cela. Deuxième chose, il faut que les gens sachent que du RCD au M23, les espaces occupés par les rébellions sont en train d'aller en diminuant. Les RCD avaient des provinces qu'ils géraient, les CNDP avaient le territoire de Massissi et de Routour qu'ils géraient, les M23 avaient un seul territoire qu'ils géraient. Maintenant, on sent qu'on va du plus grand espace géré au plus petit espace. Et d'ici là, on va arriver à l'espace zéro, géré par ces éléments qui sont en train de déstabiliser. Donc je crois qu'en évaluant la situation actuelle sur le terrain, nous devons être très très prudents face aux stratégies que nous devons adapter sur le terrain, parce que nous risquons de nous adapter à l'ennemi par rapport à ce qu'il veut voir. Et nous, comme nous avons vécu beaucoup de situations de guerre ici, une situation qui se produit nous amène à l'analyser très rapidement et à savoir quelles dispositions prendre, sinon on risque de nous faire tomber dans un piège qui va nous amener à déconcentrer nos unités qui sont déjà à l'intérieur du territoire en train de faire de très beaux résultats et à les ramener à la route principale pensant que c'est là où le danger est revenu, alors que naturellement c'est une embuscade qui est une attaque surprise, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Oui, monsieur le gouverneur, vous dites que ceux qui attaquent cherchent à empêcher la progression des FRDC. Vous ne pensez pas qu'ils y sont parvenus, parce que depuis que les attaques, les opérations militaires sont menées contre l'FDLR au mois d'avril, on ne sent pas un changement, n'est-ce pas, sur le plan sécuritaire dans cette province du Nord Kivu?
S'il n'y avait pas de changement, il y aurait tous les jours des embuscades. Je crois que si aujourd'hui nous sommes à la radio Okapi, c'est parce que c'est la seule embuscade de qui fait la une. Sinon, je n'ai plus été invité depuis un certain nombre de mois parce que la situation était normale. Donc je crois que les auditeurs doivent aussi être sérieux envers les éléments de FRDC qui sont en train de faire un travail de titan pour lequel j'ai toujours demandé que nous ayons du respect envers nos éléments de FRDC. Ça fait autant de mois que ces gens d'embuscade n'ont pas eu lieu. On est en train d'évoquer le cas de Mamadou. Mamadou a été assassiné, a été tué. C'était le 2 janvier 2014. Et vous comprenez, du 2 janvier 2014, il s'est passé seulement une autre embuscade vers Massissi.
Oui, mais ce que vous avez commencé à dresser le bilan. Allô, monsieur le gouverneur, voilà, ça s'est coupé. Jason Sons, nous allons prendre cette question qui vous est adressée. Eh bien, de Kananga.
Maître Adrien Ilobakwe Ispero, à Kananga, au Kasaï central. Je me demande si cette attaque envers le militaire des FRDC au Nord Kivu ne confirme-t-elle pas l'échec de toutes les opérations menées à l'est de la République démocratique du Congo en général et au Nord Kivu en particulier contre tous les groupes armés opérant à l'est?
Monsieur Gizon,
je n'ai pas tout à fait compris la question, est-ce que vous pouvez répéter?
Il dit ceci, je me demande si cette attaque contre les FRDC ne vient-elle pas confirmer l'échec de toutes les opérations militaires engagées contre les différents groupes rebelles à l'est du pays d'une manière générale et au nord Kivu d'une manière particulière.
Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a deux choses qu'il faut savoir en même temps. Donc, d'un côté, comme le gouverneur a dit, il vient de dire qu'il y a eu des grands progrès contre certains groupes armés, surtout, je dirais, si on peut parler de l'axe étranger, donc l'M23 qui avait un soutien du Rwanda, l'ADF qui est un groupe ougandais, aussi ougandais, Et un peu contre les SLR, là, même si je dis que le bilan contre les SLR est un peu mitigé quand même, parce qu'on n'a pas vraiment vu l'écrasement de la SLR comme un grand progrès contre la SLR. Donc du côté, les FARDC, je ne dirais pas qu'il y a un échec, il y a au contraire, les FARDC, il y a une amélioration de performance des FARDC dans ces opérations. En même temps, on constate une fragmentation et prolifération des groupes armés congolais. Nous sommes, on vient de faire, je viens avec une équipe de recherche de faire, de répertorier les groupes armés congolais à l'Est. On arrive presque à 90 à l'Est du Congo. Et si on voit le déplacement, donc si on utilise le déplacement de la population comme baromètre de violence, il y a toujours presque près de 3 millions de personnes, donc 2,7 je pense, 1 million de personnes déplacées à l'Est du Congo. Ce qui n'est pas vraiment une amélioration par rapport à l'année passée ou avant cela. On est toujours près de... c'était presque le plus qu'on a vu dans le passé du Congo. Donc, je dirais d'un côté, oui, amélioration performance par DC, amélioration contre les groupes armés avec soutien étranger, oui. Mais en général, il y a toujours beaucoup de défis, surtout côté congolais, surtout par rapport à la sécurisation de la population.
Monsieur Dizone, que faut-il pour pacifier cette partie du pays, hein? Vous évoquez un chiffre là, vous parlez des 90 groupes armés qui sévissent dans l'est de la RDC. À votre avis, que faut-il faire pour solutionner ce problème?
Bon, il y a plusieurs choses. D'abord, on a lancé, ça fait maintenant plus d'un an, un an et demi maintenant, qu'on a lancé un nouveau programme de démobilisation. Qui n'a voulu pas, qui n'a pas de financement, qui n'a pas été mis en œuvre. Je pense vraiment qu'il faut souligner ce point-là. Il faut que ça soit mis en œuvre, soit financé. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, et là, je reviens encore une fois à la redevabilité des structures de l'armée congolaise, des gouvernants congolais. Et il faut dire que, d'après les enquêtes menées par les Nations Unies et autres, il y a beaucoup de ces groupes armés que je viens de citer qui ont un soutien ou des liens avec soit des officiers congolais dans l'armée congolaise, soit avec des politiciens au niveau local, soit avec des hommes d'affaires au niveau local. Il faut que je pense qu'il y ait des vraies investigations par rapport à ces phénomènes. Il faut que les gens qui collaborent, qui financent, qui soutiennent les groupes armés soient traduits en justice. Alors, c'est pour cela que je mets vraiment un accent sur la redevabilité de l'armée congolaise, des institutions congolaises.
Monsieur le gouverneur, qu'est-ce qu'il faut pour pacifier cette partie du pays?
Première chose, on doit poursuivre avec les opérations militaires. Là, c'est clair et c'est mon option que j'ai toujours défendue depuis tout ce temps. Deux, il faut qu'on poursuive la sensibilisation des populations pour qu'on se désolidarise avec l'ennemi, parce que ces gens qui attaquent nos armées sont toujours localisés quelque part dans des villages, comme Aruba était un village. Trois, on doit encourager le gouvernement rwandais à pouvoir continuer à recevoir ses citoyens, parce que ce sont des citoyens rwandais qui nous causent des torts ici. Il faudrait que les Rwandais aussi puissent accepter que ces gens rentrent chez eux. Et enfin, nous devons ensemble nous investir dans la pacification de cet espace, mais également encourager des investisseurs qui viendraient amorcer certains projets de développement qui occuperaient la jeunesse, de manière à éviter que des gens soient sollicités pour embrasser quelques groupes d'armées. Donc, c'est autant d'éléments que nous, autour desquels nous pouvons envisager des stratégies pour mettre fin définitivement à cette insécurité qui gangrène la vie en province nord-ouest.
Monsieur le gouverneur, vous préconisez qu'il faut poursuivre avec les opérations militaires. Vous ne pensez pas que les opérations militaires ont démontré leurs limites? Ça sera votre conclusion, parce que nous sommes à la fin de l'émission.
Les opérations militaires ont plutôt démontré qu'elles valent mieux que n'importe quoi, parce que si elles n'existaient pas, les M23 seraient encore présents ici, les CNDP aussi et tous les autres. Donc merci. Maintenant que nous ne restons qu'avec les FDLR et quelques groupes armés, je crois qu'il ne sera pas plus tard que quelques mois pour que les gens du Nord qui vous retrouvent totalement la paix. Il y a un moment où nous avions des centaines de groupes armés, maintenant nous ne parlons que de 2 ou 3. C'est déjà un résultat auquel nous sommes arrivés.
Merci, honorable Mohamed Boulet. Que faut-il pour pacifier cette partie du pays? En 30 secondes, ça sera sous votre conclusion.
Oui, en décryptant ces deux éléments malheureux qui ont entraîné mort d'hommes, il faudrait nous rendre compte que la problématique, la permanence des groupes armés nationaux et étrangers subsiste. Donc, il faudrait évaluer les objectifs clés, c'est-à-dire mettre fin à cette guerre au nord Kivu, pourquoi pas au sud Kivu aussi, et restaurer le climat de paix, et surtout aussi évaluer les actes d'engagement de tous ces groupes armés et les résolutions quant à ce qui concerne la paix, le retour des déplacés, parce qu'à chaque fois qu'il y a un événement comme ça, il y a toujours des retours, des déplacements des populations.
Disons, c'est votre conclusion.
Bon, je viens, maintenant que je suis en train de parler, je viens de recevoir un message du Kivu qui dit que le commandant 805, 4e régiment, vient de perdre hier deux de ses éléments en embuscade des FDLR, donc je dirais qu'il y a encore beaucoup à faire.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Jean-Noël Mokondo qui était à la technique. Merci à Alain Irung qui l'écoutait à la réalisation sous la supervision des Pelé Kipela Mondo. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon suite de programme sur Radio Capi.